Et vous êtes tous, et merci pour cette invitation pour ce sujet français. Après certainement de semaines de vacances pour les uns, les autres, de repos, de méditation et plein de choses. Nous voici à nouveau réunis pour tourner, nous pencher, nous rapprocher davantage de notre Seigneur et sa parole. Donc le partage d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, que je vais apporter avec vous, c'est quand la nature obéit à Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'aimerais souligner, donc, si on peut afficher à partir du verset 10, c'est ces versets-là que j'aimerais souligner cet après-midi avec vous, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes parmi les, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Et nous allons justement nous pencher sur la relation de Dieu avec la nature. Et donc, on va plutôt s'axer sur la relation de Dieu avec le monde animal. Nous remarquerons dans les passages qui vont suivre comment Dieu peut utiliser le monde animal pour comprendre l'homme, parfois le reprendre, lui parler, le ramener dans les bons chemins. L'homme est tellement fier de son autorité naturelle, sa domination, qu'il en oublie parfois que Dieu est le Dieu de toute la création. Et les versets qui en parlent le plus, bien sûr, c'est pas, je n'ai rien à vous cacher, rien à inventer, hein, ça se trouve dans Genèse. La création, on voit que Dieu a tout créé. Et Genèse 1, chapitre 21, donc en fait, ça concerne le verset 21 à 30. Je n'ai pas l'intégralité des passages, mais je vais vous donner tous les versets, comme ça vous pourrez les reprendre. Alors, que dit Dieu? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent par-dessus l'étendue des cieux. Dieu créa les grands poissons, les animaux vivants qui se meurent. Et les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il crée aussi tous les oiseaux et selon leur espèce, Dieu dit que cela est bon. Ainsi de suite. Et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, bétail, reptile, les animaux terrestres selon leur espèce. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, ainsi de suite. Et on voit que Dieu a créé tout ça en un, et après il a créé l'homme comme le tableau était presque.
Dieu a rajouté la petite touche, c'était l'homme. Et puis, là, je pense à Lisa. Ben voilà, quand on fait un beau gâteau ou une belle préparation en pâtisserie, à la fin, on met la petite touche qui va exceller le tout, qui va sublimer le tout, qui va pas le gâcher, mais qui va le mettre en valeur, aussi bien par sa texture, son goût, que sa beauté. Continue, Lisa. Hein. Et puis, un peu plus loin, au Genèse chapitre 6, versets 18 à 22, là, c'est le moment du déluge. Alors, Dieu s'adresse à Noé et lui dit, voilà, je vais envoyer le déluge sur la terre. Hein, je vais détruire tout ce que j'ai créé parce que tout est corrompu. Mais Dieu dit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et Dieu dit, de tout ce qui vit, de toute chair, et Dieu connaît toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux, selon leur espèce, du bétail, des reptiles, ainsi de suite, deux de chaque espèce, viendront à toi. Ah, là on est en plein dans le vif du sujet. Quand la nature obéit à Dieu. Là, Dieu dit, je vais faire venir à toi chaque espèce pour que tu leur conserves la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quels que soient les animaux, quel que soit leur instinct, leur façon de communiquer, pour une raison humainement, je dirais impossible, Dieu va faire en sorte que les animaux, un mâle, une femelle, selon leur espèce, vont se diriger vers l'arche. N'ont pas de boussole, n'ont pas de berger, n'ont pas de GPS, mais par contre, ils vont se réunir pour aller vers l'arche. Dieu sait diriger, pas seulement la pensée de l'homme, mais aussi l'instinct des animaux. Et puis donc tout le monde entre dans l'arche, hein, au Genèse 7, verset 7-9, donc d'abord Noé entre dans l'arche, avec sa femme, ses fils, ainsi de suite, et puis les animaux arrivent au fur et à mesure et commencent à rentrer dans l'arche. Et là, mais je me dis, en plus ça me l'a rappelé quand j'ai vu le film Noé il n'y a pas tellement longtemps, on voit cet ordre, les animaux rentrent, mais on voit le tigre avec un mouton à côté, et on se dit, mais d'habitude, il y en a un qui va déchirer l'autre. Et là non, il n'y a plus de prédateurs, il n'y a plus de proies, il n'y a plus de victimes, il n'y a pas de bagarre, ça se passe dans la sérénité, comme si les lois de la nature à ce moment-là s'étaient annihilées, s'étaient arrêtées, parce que l'on voit que c'est Dieu qui dirige toute chose. Et puis un peu plus loin, donc chapitre, on est toujours dans Genèse, hein, chapitre 8, verset 1er, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail, et là il fit venir un vent sur la terre pour assécher la terre, pour faire baisser le niveau de l'eau, et là il dit à Noé, va, lâche un corbeau. Alors, je me suis mis à la place du corbeau, parce qu'il faut se mettre à la place des animaux, comment est-ce qu'ils vont réagir? Vous imaginez, toutes ces bêtes-là, elles sont enfermées depuis combien de temps? Depuis des jours et des jours et des jours et des jours. Imaginez, hein, vous avez une cage avec un oiseau dedans, vous mettez un voile dessus pendant des semaines, et d'un seul coup, vous enlevez le voile, hein, vous ouvrez la porte, et vous le laissez partir. Vous pensez qu'il va revenir? Enfin, parvenir. Un corbeau, je ne pense pas que ce soit un oiseau qui soit facilement apprivoisable. Donc en fait, il lâche le corbeau pour que le corbeau aille comme sentinelle pour voir si la terre commence à émerger des eaux. Et il lâcha aussi une colombe. Et puis plusieurs fois, jusqu'à ce que l'un revienne avec un morceau d'arbre dans le bec et l'autre pas. C'est-à-dire qu'il a trouvé de quoi poser ses pattes et poser ses ailes et reconstruire son existence. Et au verset 7, verset 17 à 20, donc on voit que l'arche se pose et Noé ouvre les portes et tous les animaux repartent et vont aller repeupler la terre, vont à nouveau se disperser. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, toutes les espèces sortent de l'arche. C'est un épisode qui est vraiment, vraiment frappant, juste après la création, de voir comment Dieu... Bon, on dit que Dieu a tout créé, mais selon un certain ordre, mais on ne sent pas forcément la communication que Dieu a avec les animaux. Et là, on voit vraiment que Dieu dirige le monde animal. Et vous connaissez aussi cette histoire, toujours dans Genèse, chapitre 22, versets 1 à 13, hein, quand Dieu mit Abraham à l'épreuve en disant « Va avec ton fils, va offrir un holocauste. Selle ton âne. » Donc déjà, il y a aussi besoin, l'animal participe. « Selle ton âne, monte sur ton âne, toi, le jeune homme, et tu vas... » à monter sur la montagne, tu vas aller m'adorer et tu vas offrir un sacrifice. Et là, si je me mets à la place d'Abraham, je me dis, Dieu me dit de prendre un âne, mon fils, partir sur la montagne et d'offrir un sacrifice. Quel sacrifice? Les ânes n'étaient pas des animaux d'holocauste. Alors qu'est-ce qui allait se passer ? Jusqu'à ce qu'Abraham prenne le couteau, pose son fils, prêt à tuer son fils pour l'offrir en holocauste, et Dieu arrête sa main, et là, le fils, j'imagine quelle a été sa réaction, surpris, ça y est, c'est la fin. Et non, Dieu arrête la main d'Abraham, et l'ange lui dit, donc Dieu s'adresse à Abraham par son ange, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et là, Abraham lève les yeux et il vit derrière lui un bélier qui était retenu dans les buissons par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier pour l'offrir en holocauste. Le bélier était là. Dieu avait envoyé aussi cette bête pour être offerte en sacrifice. Dieu, créateur au-dessus de tous les règnes, le règne de l'humain, le règne de l'animal, mais aussi le règne du végétal. Alors encore un autre exemple. Là, il est question de corbeau. On avait déjà parlé de corbeau pendant Genèse, mais là, dans 1 Roi, chapitre 17, les versets 4 à 6, il y a une petite histoire intéressante. Et à noter à chaque fois quelle est la nature de l'animal utilisé. Le corbeau, c'est un... mange de la chair. C'est un carnassier, c'est un carnivore. Et là, donc ça, il faut savoir toutes ces petites choses-là. Et là, Dieu dit, tu boiras de l'eau du torrent. Va, tu boiras de l'eau du torrent, mets-toi à part. Et Dieu dit, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Au corbeau d'aller te nourrir. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent qui est en face du Jourdain. Et là, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. C'est quand même extraordinaire. De voir, moi quand je mets du pain dans le jardin pour les oiseaux, vous inquiétez pas, ils viennent et puis ils prennent et ils s'en vont. Hein, ils vont donner à manger aussi à leur progéniture. Et là non, les corbeaux sont des corbeaux ravitailleurs. Et en plus ils transportent de la viande alors qu'ils consomment eux-mêmes de la viande. Vous voyez un peu comment Dieu dirige les choses. Il avait préparé une escouade de corbeaux pour aller nourrir un homme. Et dans 1 Samuel, chapitre 6, versets 7 à 13, là on change d'animal, on part sur de la vache. Et bien plus, on part sur de la vache qui allaite. Alors vous savez, la particularité des animaux, quand elles sont en phase d'allaitement, elles sont très protectrices. Il faut pas approcher la main, essayer de saisir l'animal ou de faire quoi que ce soit, ou enlever ni le bébé de sa maman, ni la maman de son bébé. Là, la réaction, c'est l'instinct pur et dur de protection. Et là, dans 1 Samuel chapitre 6, maintenant faites un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaitent. Attachez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous imaginez un peu. Alors déjà, je pense qu'au niveau de la réaction, si on essayait de faire la même chose, ça se passerait pas bien. Et là, les vaches, elles restent sereines et puis elles emmènent l'arche et elles indiquent même la direction du chemin à prendre. Parce que Dieu dit, suivez-la du regard, suivez l'arche du regard avec les vaches devant. Si elle monte par le chemin de sa frontière, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Et en plus, quelques versets plus tard, Il est dit, les vaches prirent directement le chemin, sans aucune hésitation. Les animaux, en général, quand on étudie leur façon de se déplacer, ça se dirige pas souvent de manière rectiligne. Mais là, sans hésitation, elles ont pris tel chemin. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite, ni à gauche. Comment Dieu dirige la nature, en tout cas le monde animal, là pour montrer une direction, pour donner une indication à l'homme. Et puis souvenez-vous, dans Daniel chapitre 6, versets 16 à 23, l'expérience qui avait l'autorité, et puis on lui dit, tu as désobéi, donc tu vas être jeté dans la fosse aux lions. Et à l'époque, la tradition voulait que on affamait d'abord les animaux, pour que le spectacle soit bien féroce. Donc les animaux étaient affamés avant de les mettre dans l'arène et de jeter les suppliciés. Et en général, ce qui suivait, c'était pas forcément beau à voir. Il suffit parfois de regarder des reportages animaliers pour voir quand un lion attaque une proie, en général, elle reste pas en vie très longtemps et elle est vite mise en pièces. Et là, donc le roi scella de son anneau les portes pour que personne aille, que personne n'intervienne. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse aux lions. Il s'approcha de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste, parce qu'il disait, dans sa tristesse, il se dit, mais de toute façon, je l'appelle, mais je sais très bien qu'ils sont morts. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» D'après vous, qu'est-ce qu'il devait penser là, le roi là ? De dire, est-ce que Daniel était suffisamment fort pour lui-même tuer les lions, tout seul, sans armes ? Ou peut-être que par une raison X, les lions n'auraient pas touché Daniel ? Et là, Daniel dit au roi, « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Voilà. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, ni une tentative d'agression de la part des lions, rien. Il avait ses peluches avec lui dans la fosse, rien ne lui est arrivé. N'est-ce pas un miracle ? Dieu ne dirige-t-il pas le monde animal pour montrer à l'homme quelle est sa puissance ? Dieu aurait pu empêcher cette scène. Il aurait pu empêcher que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions par une autre façon de l'histoire. Non, on est passé par cette étape-là, l'étape des lions. Et puis encore un exemple, mais très frappant. Dans Nombre, au chapitre 22, les versets 21 à 33, là, il est question d'un animal qui voit un ange. Imaginez, un animal qui voit un ange. Déjà, pour nous, humains, voir un ange, bon, la vision des animaux n'est pas la même que la nôtre. On ne voit pas de la même manière. Et bien là, l'animal discerne un ange. Donc un céleste est parti, et la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Et Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Alors elle l'a vu, mais pas Balaam. Son épée nue était dans la main. Et elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Mais l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, et il y avait un mur de chaque côté. Et là, encore une fois, il est écrit « L'ânesse vit l'ange de l'Éternel ». Et deux versets plus loin, « L'ânesse vit l'ange de l'Éternel ». Elle se fait frapper par son conducteur, mais elle se dirige là où l'ange veut qu'elle aille. Et puis, alors là, c'est encore plus frappant, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. C'est l'histoire d'un animal qui voit un ange et qui parle. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Et Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée, je te tuerais maintenant. » Et l'ânesse continue à parler à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as monté depuis tout le temps ?» Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Alors, l'Éternel avait ouvert les yeux de l'ânesse, mais pas ceux de Balaam. Remarquez bien. Et Balaam, à son tour, vit l'ange de l'Éternel. Là, il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et là, l'ange dit, l'ânesse m'a vu. Et elle dit, l'ânesse m'a vu. Une ânesse qui voit un ange et qui parle. Dans Marc, au chapitre 1er, verset 6, là, on voit que Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles. Donc, la nature sert aussi l'homme dans son bien-être de nourriture. Et puis, un peu plus loin, c'est une colombe qui descend quand Jésus se fait baptiser. Là, c'est un symbole. Symbole de la pureté, hein, de l'esprit qui descend vers Jésus. Et puis, un peu plus, juste après cet épisode-là, aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Et on a encore une petite phrase, « Il était avec les bêtes ». Mais il aurait pu être avec les moutons, avec les chèvres. Mais non, il est dit, il était avec les bêtes sauvages. Il était avec les bêtes sauvages. Vous imaginez, vous avez déjà vu le travail d'un dompteur? Quand vous voyez qu'il est obligé d'avoir un, voire deux fouets, et même si il essaye de dresser ces animaux-là, il reste féroce, mais jusqu'à la fin. Pas content d'obéir, montrant les crocs, prêt à balancer un coup de patte, prêt à t'attraper. D'ailleurs, dans les eaux, on est bien en retrait parce que faudrait pas approcher son visage ou mettre sa main. Et puis, il y a aussi l'épisode quand Jésus envoie ses disciples aller chercher un ânon, un petit âne. On lui dit « Détachez-le et il me servira de monture. » Pourtant, Jésus avait l'habitude d'aller à pied. Mais là, non. Jésus montre qu'il domine, qu'il dirige aussi toute la création. Et puis, dans Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27, alors là, c'est un épisode avec là, on retrouve des poissons maintenant. Et il y a plusieurs exemples sur les poissons. Et là, quelqu'un dit, votre maître ne paye-t-il pas son impôt, là? Il doit payer deux drachmes. Et Jésus dit, va, jette l'hameçon et tire le premier poisson. Tire le premier poisson. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent à l'intérieur. De l'argent dans la bouche d'un poisson. C'est quand même étonnant. Moi, je me suis dit, mais Jésus aurait pu lui dire, bah, tiens, soulève cette pierre-là, on retrouve plus facilement de l'argent dans un chemin qui est tombé entre deux pierres, soulève la pierre, tu vas trouver... Non, va, pêche, prends un poisson et tu trouveras de l'argent dans la bouche du poisson. Et encore un autre épisode, c'est l'épisode de Jonas. Je pense que tout le monde, même à l'école du dimanche, ont étudié l'histoire de Jonas. Hein, Jonas, l'Éternel l'envoie à Ninive dans la direction de la droite, et Jonas dit non, j'irai pas, moi je pars à gauche. Et puis vous connaissez la suite, hein, chavire, et là, l'Éternel fit venir. C'est pas Jonas qui est allé à la rencontre du poisson, c'est l'Éternel qui a envoyé le poisson vers Jonas. Pas un dauphin, hein, pour qu'il se mette sur son dos et puis qu'il fasse de la moto sur le dos du dauphin pour le ramener à terre. Non, il envoie un poisson suffisamment grand pour que Jonas rentre à l'intérieur. Et là, il est resté quand même 3 jours. Hein. Il aurait très bien pu se faire rejeter par le poisson, parce que c'est quand même un corps étranger. Alors un poisson, là, en l'occurrence, pencherait plutôt que ce soit un cachalot. C'est un carnivore. S'il prend quelque chose qu'il ne consomme pas, le cachalot, je ne pense pas qu'il consomme de l'être humain, il aurait rejeté ou peut-être avalé. Mais là, en l'occurrence, non, Jonas est resté à l'intérieur, vivant, pendant 3 jours. Puis l'Éternel parla au poisson. L'Éternel parla au poisson et le poisson alla vomir Jonas sur la terre. Il n'a pas vomi en pleine mer pour que Jonas se noie. Il a rapporté à côté de la terre pour aller rejeter Jonas sur la berge, sur la rive. Donc là, on voit quand même que l'Éternel dirige le poisson vers Jonas, puis après, il parle au poisson et le poisson va rejeter Jonas. C'est quand même extraordinaire, toutes ces histoires d'animaux. Il est question de vaches, d'un bélier, d'un âne, d'une ânesse, d'un ânon, de petits poissons avec de l'argent à l'intérieur, de plus grands poissons, puis des oiseaux. Dieu dirige toutes choses pour montrer sa puissance, pour montrer qu'il est le Dieu créateur de la terre, des cieux, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Et Dieu dit, je les ai créés, mais ils sont à moi. Ils sont à moi. Et Dieu a mis tous ces animaux, entre guillemets, dans l'environnement de l'homme pour le servir, pour le nourrir, pour la beauté de la création. Mais là, on a des exemples comme quoi ben, Dieu confond l'homme par la nature. Par la nature. Là, pendant cet été, si vous avez fait l'expérience, on a souvent les fenêtres ouvertes. Hein, donc, régulièrement, il y a une mouche qui rentre. Alors, une mouche rentre, donc vous ouvrez la fenêtre pour qu'elle sorte. Non, elle va rester à côté de la fenêtre. Elle va repartir. Vous n'arrivez que très rarement à la diriger vers la fenêtre. Elle fait ce qu'elle veut. Nous n'avons pas d'action sur les animaux. Dieu, oui. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 29... Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou, 2 petits oiseaux. Cependant, dit Jésus, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de mon Père. Et j'aimerais vraiment vous laisser sur cette pensée-là, que Dieu dirige toutes choses, que Dieu parle. Dieu agit. Et alors, parfois, on se dit, mais Dieu me parle-t-il ? Quand on voit que Dieu est capable de parler à un âne et de faire parler un âne, de parler à un poisson, Dieu ne pourrait-il pas agir aussi dans nos vies? Nous diriger, nous montrer, et c'est vrai que Dieu utilise beaucoup de moyens différents, divers et différents, pas forcément des moyens directs, parfois des moyens détournés, pour attirer notre attention sur sa divinité. Voilà, que notre Dieu bénisse sa parole. Amen.